Brisons les castes.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mardi 27 février et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. De retour dans les studios de Bjørvika, autour de la table, un comité 100% féminin ou presque. À ma droite, nous avons Anaïs. Bonsoir Anaïs.
Hello.
Pour ta deuxième émission, tu vas nous parler de quoi ?
On va parler des comportements en station de ski.
À la technique ce soir, Emma, de retour. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Tu vas nous parler de quoi ce soir ?
Je vais parler d'IA, de drones et de Belges bourrés.
Eh bien, beau programme. Et quant à moi, je vais vous parler d'une invention qui fête ses 99 ans aujourd'hui. Et si j'ai le temps, d'un homme norvégien qui vient de marquer l'histoire. Je voulais aussi dire bienvenue à Jean-Nicolas, qui est en observation... Tu es en stage.
Moi, je suis en minorité, donc comme tout homme qui se respecte en minorité, je vais faire du mansplaining de temps en temps.
D'accord, très bien. On n'entendait pas moins de toi.
C'est le seul de nous quatre avec une moustache, ce qui est rassurant, somme toute.
Alors, pour démarrer l'émission, on va parler un peu des petites actus. La première étant, ils ont publié les chiffres de la population officielle de la Norvège. Donc, comparé à l'année dernière, à la même période, donc là, on en est à 5,5 millions et demi. On a gagné 61 000 personnes. Mais par contre, il précise qu'il y a pas mal de régions du Grand Nord qui auraient connu un déclin démographique s'il n'y avait pas eu...
Les immigrés.
Donc voilà, donc c'était parti en fanfare, parce qu'il y a pas mal de réfugiés qui arrivent d'Ukraine aussi. 51 980 naissances qui ont compensé les 43 803 décès. Voilà, un excédent de naissance. Et voilà, donc on a la Norvège grandit vraiment doucement. Hein.
Mais sûrement,
on a regardé hors antenne le score de la natalité. Donc c'était 1,4.
Ouais.
C'était ça, qui n'est pas encore assez pour maintenir la population. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de gens comme nous, en fait, qui arrivent et qui ne font pas d'enfants, non.
Moi, je vais faire un débat plus grand. Pourquoi on nous sermonne qu'on est trop sur cette planète et qu'on cherche à être encore plus nombreux?
Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être.
Écoute, j'ai jamais réfléchi, mais si tu veux, je peux m'enseigner.
C'est peut-être parce qu'il y a cette histoire de disparition culturelle, disparition de l'héritage, et ça engendre plein de peur. Donc, on va disparaître, et qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est un peu partout pareil, en fait, j'imagine. En Europe, en tout cas, c'est le continent, le vieux continent.
Ah, c'est la survie en tant que nation, pas en tant que planète. Nous, c'est sûr, oui, on est excédentaire à l'échelle planétaire. Mais...
Oui, c'est principalement sociétal. Surtout en Europe, la société est basée sur le fait que... Et surtout en Norvège, on le voit bien, quand on a des enfants, il y a beaucoup plus d'avantages. La société est construite autour de ça. Et quand on n'a pas d'enfants, en gros, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qui va s'occuper de toi?
Qu'est-ce que tu apportes à la société?
Comment occupes-tu ton temps?
Exactement.
Je voulais qu'on parle un peu de l'Eurovision, parce qu'il commence à y avoir une sacrée liste de casseroles. Là, je viens de lire la chanson espagnole, qui est intitulée Zora. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Qui veut dire donc traîner. Il y a quand même un message un peu contre les femmes qui est un peu dénoncé. En Pologne, problème de corruption, il y avait la favorite de la population qui a perdu, donc qui ne sera pas celle qui va représenter la Pologne pour l'Eurovision.
C'est quel pays, la petite traînée, en fait ?
L'Espagne.
Ah, l'Espagne.
Et tout dernièrement, il y a Israël qui a publié sa chanson qui s'appelle October Rain, en lien direct avec l'attaque terroriste du 7 octobre. Et donc là, il y a pas mal de pays, dont le Danemark et je pense aussi la Norvège, qui appellent au boycott de la compétition. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que c'est... L'Eurovision, c'est une grosse magouille? Est-ce que quelqu'un peut sauver l'Eurovision?
Personne ne veut la ramener, là.
Parce que, par exemple, l'année dernière...
Moi, je serais pour boycott. Hein,
Non, évidemment. Mais tu vois, déjà l'année dernière, c'était la Suédoise qui a remporté le concours, bizarrement, pour les 50 ans de la victoire d'ABBA avec leur chanson « Do Waterloo ».
Je me rappelle de l'édition, c'était Azerbaïdjan qui organisait, et un peu compliqué de faire la promotion du pays dans les films en général, qui diffusent...
Oui, c'est vrai, les petites...
voilà, les petites vignettes, ouais. Voilà, bon, voilà, au pays de l'Azerbaïdjan, sa dictature un peu compliquée.
Donc l'Eurovision se déroulera à Malmö, en Suède. On va suivre avec attention ce qui va se passer avec la chanson d'Israël, parce qu'apparemment, donc, ils ont carrément dit si on ne changera pas de chanson... Ça se fera avec cette chanson ou sans nous, concrètement. Voilà. Donc il y a des pressions déjà politiques avec le conflit israélo-palestinien qui s'est invité dans la compétition.
Ouais, et puis aussi les cadreurs qui vont filmer l'émission, ils vont être un peu en stress justement qu'il n'y ait pas à ce moment-là un truc qui se passe dans le public où on peut imaginer que c'est, on est en direct.
Ah, quand la politique se mêle.
C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, cette chanson, elle brise une des règles principales qui est qu'il n'y a pas d'engagement politique dans les chansons.
Et c'est, en fait, je pense que c'est ça qui est devenu un peu compliqué avec l'Eurovision, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. On avait avant, voilà, c'était l'occasion pour chacun de montrer un peu sa culture, des choses, voilà, que tous les pays se démarquaient un peu. Après, c'est devenu un peu pop, parce que c'était peut-être un tremplin pour des artistes, mais qui devait être bankable un peu dans tous les pays. Donc, ça devenait, bon, voilà, tout le monde chantait en anglais, tout le monde était... Donc, c'est ça, c'est quoi l'Eurovision? Qui regarde? Qui achète des singles après?
Voilà, donc ça, affaire à suivre la finale de l'Eurovision. Donc, c'est le deuxième week-end de mai, donc le samedi 11 mai. Les demi-finales seront le 7 et 9 mai. On va faire une petite pause musicale. On va écouter justement les représentants de la Norvège pour l'Eurovision. C'est Gaute Ulveham.
Brisons la glace.
Eh bien, nous voilà de retour dans notre émission de Brisons la glace. On s'est fait une petite pause avec Gaute Ulveham, les représentants de la Norvège pour l'Eurovision 2024 à Malmö. Et sans transition, on va partir avec toi, Anaïs, en petit voyage.
Petit voyage. Donc, c'est vrai que bon, l'hiver se termine doucement, mais bon, on aura peut-être l'occasion encore de se faire quelques week-ends, quelques hit tours. Ou tout simplement, si on a la chance d'habiter pas trop loin d'un ski resort, une station de ski, eh bien, je vais vous dire ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait plus faire. Je suis allée interroger Martin Jordsche de chez Skistar, qui a passé 6 ans lui-même en station à peu près tous les postes, mais surtout en location de matériel. Et un de nos compatriotes ici, John Lassalle, qui donne des cours de ski à Trivan pour ce qui est de l'entrée en station. Donc, ils ont une devise chez Skistar, c'est « More people out than people in ». Et ça veut tout dire.
Okay.
Ça veut dire, soyez efficaces, les gars. Quand vous arrivez dans la station, vous allez louer du matos, vous allez prendre vos forfaits, sachez à peu près au préalable ce que vous voulez. Par exemple, dans la location de matériel, il nous disait le temps qu'on perd avec des gens qui disent juste, je voudrais des skis. Il y a beaucoup de sortes de skis, on peut à peu près tout louer. Ou les gens qui, il y a beaucoup de touristes, bien sûr, qui ne font pas la conversion des tailles. Donc le temps, qui, par exemple, une taille 40 en Norvège, en France, c'est un 6 au UK. Et donc les gens, voilà, sont un peu cette perte de temps. Des petits détails comme ça.
Ouais, sachant qu'il faut une taille de plus en ski piste.
C'est absolument. Et aussi, il dit, la mauvaise surprise que beaucoup de touristes étrangers ont en Norvège, c'est que, bon, une fois qu'ils ont loué le matériel, c'est tellement cher qu'ils pensent que le forfait est inclus. Et donc, il faut apporter la nouvelle. Ah bah non, ça, c'est juste le prix de la location des skis.
C'est si cher que ça ?
Bah, ouais, enfin, nous, maintenant, on a l'habitude.
C'est double, voire le triple d'un prix de location dans une petite station des Alpes. C'est ça, c'est à peu près 600 couronnes la journée de Locke. Oui. En France, on doit être plus sur des 30 euros, ouais. Je pense.
Absolument. Donc voilà, donc des fois, voilà, il y a ce petit effet qui se coule. Ensuite, il dit « Arrêtez de passer du temps, quand on retourne le matériel, à essayer d'enlever la glace, la neige, gna gna. » Il y a un système de drainage. Hein. Il dit « Passez plus 30 secondes à bien les accrocher de la même manière où vous les a donnés. » Là, ça leur fait gagner du temps. John nous dit « D'arrêter de faire la pause, on se retrouve au milieu de la piste. »
Ah bah oui, ça c'est la base.
La base, non.
Ah bah c'est une question de sécurité.
9 personnes sur 10 s'arrêtent au milieu de la piste en se disant « C'est le meilleur moyen que mes potes me retrouvent. » Non, mettez-vous gentiment sur le côté. Et surtout quand il n'y a pas trop de visibilité. Et ce qui l'a choqué, John, donc il a l'expérience bien sûr des stations de ski en France, et là où il a vu la grosse différence en Norvège, c'est le niveau d'insouciance des Norvégiens. Pas c'est une question de niveau, hein. C'est pas genre, ils skient trop bien, donc ils font plus gaffe. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas trop la notion de l'autre. Ils pensent qu'ils ont toute la place sur la piste.
Ouais.
Alors, est-ce qu'encore une fois, ils n'ont plus l'habitude des densités, ils font plus gaffe, tu vois. Mais il y a vraiment des comportements dangereux, notamment au niveau du snowpark et tout. Là, c'est une catastrophe. Il y a bien sûr souvent des cours de ski. On voit les gens traverser les serpents de gens débutants.
Ouais,
enfin, un peu assez catastrophique. Donc il dit ça.
Combien d'enfants morts à
Combien d'enfants
Non, mais sérieusement, quoi. C'est un peu du savoir-vivre, quoi. C'est-à-dire que des enfants qui sont en train d'apprendre, t'as pas envie de passer à toute blinde à côté d'eux, quoi.
Non.
Tu vas en choquer un ou tu peux même carrément rentrer dans quelqu'un,
absolument.
Quoi.
C'est une des raisons pourquoi il y a eu une baisse de natalité ces deux dernières années.
Il dit bien sûr d'éviter le rush hour, surtout à Trivan, 17h-20h, n'y allez pas. Vous avez toutes les sorties d'école, donc beaucoup de jeunes, justement,
cours,
un peu insouciants. Ouais. Et pour nos compatriotes qui débuteraient le ski en Norvège, qui serait sur un niveau débutant, il conseille de ne pas commencer avec les bâtons. Même en tant qu'adulte, il dit que c'est une information supplémentaire à gérer, c'est too much. Les bâtons, c'est quand on commence à maîtriser le virage ski parallèle. Avant
pour pouvoir faire le planter de bâtons.
Monsieur Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton.
J'ai demandé à Martin aussi, vu qu'il est donc c'est un skieur hors pair et il a testé à peu près tous les resorts de Norvège. Donc je lui ai demandé quelle était sa station overrated. Emsedal. Bon, il a ses raisons.
Ouais.
Vous aurez peut-être les vôtres aussi.
D'accord, donc tu précises pas.
C'est too much, c'est too much.
Est-ce que c'est un forfait plus cher ou
Ouais, non, je pense que c'est trop le bordel. Il y a peut-être trop de monde. Sont underrated. C'est une petite station dans la direction de Gvitfjell qui s'appelle Högvarde. Donc je vais vous l'appeler Högvarde. Il y a un remonte-pente, mais ça donne une sensation de grande montagne. Les pistes sont longues et c'est aussi bien pour ski alpin que ski de fond. Ah. Et voilà, donc ça, il dit, c'est une petite pépite à découvrir. Surtout, y a pas grand monde.
Ouais.
Si on veut se faire kiffer, on est peut-être justement sur un niveau un peu débutant. C'est le plan en or. Je lui ai aussi demandé ce que c'était le meilleur plan si on est sur Oslo, et il a dit Kongsberg. Kongsberg, c'est
ce qu'il y a aussi avec Skimore qui est dans le réseau, c'est ça.
Ouais. Oui, alors je lui ai dit, t'es objectif, et oui, ça vaut le coup. On peut y aller en bus, c'est même ou en bagnole, c'est à peu près une heure. La station est hyper bien, il y a tout ce qu'il faut et c'est pas très cher. Personnellement, je l'ai testé et j'approuve à 100%.
Mmh. Ouais. Parce que je trouve que Truvan, c'est rapidement fait, quoi. Il n'y a pas assez de pistes.
C'est un peu le reproche que. Quand t'as.
Toi, tu connais les Alpes, alors c'est encore pire.
Non, mais c'est ça, quand t'es habitué aux Alpes, c'est vrai que les montagnes norvégiennes, comment te dire, à côté. Ma station préférée, elle est dans le Grand Nord, par une toute petite station, peut-être avec trois remontes de pente et que des tire-fesses, je précise.
Oh là
parce
là
que quand tu restes 10-20 minutes sur ton tire-fesse, accroché pour pas tomber
ça,
dans des grosses
cauchemars,
pémons, ça c'est quand même un peu compliqué, mais alors la vue, moi je crois que ça bat pas les Alpes, parce que les Alpes ça reste quand même dingue, mais skier avec la sensation d'arriver sur la mer, ça c'est un truc le plus incroyable que peut offrir le ski alpin en Norvège.
Vous aviez entendu parler de cette polémique en France il y a quelques années sur... Donc c'est toujours un peu le combat entre chaque station de qui a le plus grand domaine skiable. Ouais. Et ouais, donc, il parle en kilomètres de piste. Mais à un moment, il y a un géographe qui a dit « c'est pas possible, en fait, ces chiffres. Ouais. C'est pas logique. » Et ils ont vraiment fait des mesures et dit bah, « voilà, on est grossissé par 3. »
Ah, quand même.
Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile à prouver. Et la réponse d'une directrice marketing d'une des stations que j'ai trouvée royale a dit « oui, mais bon, personne skie tout droit. »
Ah, c'est un vol d'oiseau, quoi.
Ouais. Donc, on publiera aussi donc, les stations, les petites pépites, les petits tips. On publiera ça sur, bien sûr, la page Insta du podcast, Brisons la glace _PFN.
Aujourd'hui, j'ai pas de transition, mais c'est l'anniversaire du rabot à fromage norvégien.
Ouh, pardon.
Du rabot à fromage.
Ah, du rabot à fromage, pardon.
Oustehøvel.
Oui.
Presque.
Presque.
C'est pas la traduction française.
Et si, rabot à fromage.
Je suis la seule à pas connaître le mot rabot.
Bah visiblement.
C'est la honte.
Donc, c'est un certain Thor Björklund qui, donc, en 1925, bosse sur cet objet, parce que c'est un menuisier. En fait, il est de Lillehammer, justement. Et en fait, il était un peu saoulé par la difficulté de découper soigneusement des fines tranches dans les fromages pas durs. Voilà. Le couteau, ça lui allait pas, en fait. Il avait besoin de ces ustensiles. Ouais. Donc, il a conçu le Oestehøvel, rabot à fromage, et il dépose le brevet le 27 février 1925. Auprès du Conseil pour la propriété industrielle de Norvège. Ça marche, quoi, la production de masse qui débute 2 ans après. Donc, ils ont vraiment cru au produit, quoi. Quand même 50 millions de rabots à fromage produits au XXe siècle, jusqu'à 1,5 million produits par an, autour des années 2000. Donc, ça marche quand même du feu de Dieu.
Ça se casse aussi, visiblement.
Bah ouais, mais on sait qui a inventé le fil à couper le beurre, du coup, parce que ça a été vachement reproduit aussi.
Non, parce qu'attends, on est 5 millions en Norvège, il y en a un par foyer. Bon, mais... attends, ça me paraît, ces chiffres sont incroyables. Ou à quel point il s'est exporté. Moi, je voudrais savoir dans combien de pays, là, il y a des rabots à fromage qui viennent de Norvège.
Ouais, et vous offrez des rabots à fromage quand vous rentrez en France ou pas?
Oui, j'explique que ça peut servir de pelle à tarte.
Et t'appelles ça un rabot ou pas? Parce que moi, j'ai toujours dit, tiens, ça, c'est la petite raclette norvégienne à fromage. Donc, à ne pas confondre avec
le plat. Tu vas pas t'en mettre du rabot.
Mais je vais pas m'en remettre du rabot. Enfin, tu vois, comment j'ai pu vivre tout ce temps-là sans connaître
au Danemark, ils ont aussi c'était ma première introduction au rabot à fromage. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et déjà, on t'avait dit, tiens, c'est un rabot.
En fait, on ne communiquait pas en français, on communiquait en anglais. Je ne sais plus comment ils ont dit ça. Ouais.
It's a rabot.
It's
a rabat. Mais sachez qu'il y a pas mal de gens qui aussi l'utilisent pour peler leurs légumes, donc les carottes, les concombres, etc.
Absolument.
Ce qui peut nuire à la santé. Donc des gens qui se râpent la peau, qui s'ouvrent carrément les doigts. Donc ma copine en fait partie, elle a une grosse cicatrice sur le pouce.
J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Est-ce que vous avez un rabot à fromage à la maison?
J'en ai 3, moi.
J'en ai 3. 1, vu que j'ai un mec norvégien, évidemment, qu'il l'a ramené.
On en a 3, dont... et on en a ramené en France à peu près toute la famille, au cas où il n'en est pas non plus.
Et alors, la réaction, c'est quoi? Ils sont là, ils aiment jamais me servir.
Non, ma mère, comme je m'en sers souvent, c'est un outil que j'ai complètement adopté.
Mais alors, attends, sur quel fromage français tu utilises
c'est ça,
Par exemple, le comté, quand je fais des petits copeaux de comté ou des petits copeaux de parmesan, tu vois.
It's a stretch.
Voilà, pour tout ce qui est petits copeaux.
Non, moi, le mien me sert principalement comme littéralement pelle à tarte, pelle à pizza, vraiment autre chose, une autre fonction.
Alors moi, je connaissais d'avant, parce que mon père l'utilisait pour... lui, il aime bien le Old Amsterdam, le fromage hollandais bien épais. Il l'utilisait pour faire des copeaux, mais je ne savais pas à l'époque que c'était une invention norvégienne ou que c'était...
Et il appelait ça le rabot ou pas? Tiens, passe-moi le rabot, Jean-Nicolas, s'il te plaît.
Appelle-le.
Mais non, sinon, maintenant, c'est adopté aussi un peu pour le comté. Enfin, moi, j'aime bien me faire des tranches épaisses. Donc, en général, c'est plus pour la mimolette.
Ah, la mimolette.
Ouais. Mais ouais, la
les souvenirs ouais. changent.
Mais je crois que tous les Norvégiens en ont au moins un dans leur tiroir, avec aussi une roulette pour couper les pizzas.
Ouais, absolument.
Ça, j'en ai jamais vu autant qu'en Norvège. C'est pas une invention norvégienne, mais il y en a.
Non, mais la Grandiosa, par contre, c'est les Norvégiens sont les plus grands consommateurs de pizza, je crois, au monde. Hein, quasiment, oui.
Ah
de
bon
pizza surgelée, en tout cas. Hein,
par habitant en Europe.
Ouais, ouais.
Et pour revenir sur un petit détail sur le rabot à fromage, c'est que des fois on peut se dire ah le fromage ça marche plus, mais en fait c'est parce que la lame elle marche plus, elle est utilisée, donc il faut en changer, ou il faut l'aiguiser,
comme
ou,
les
voilà.
couteaux.
Ouais. Il faut en prendre soin dans son rabot à fromage. Voilà.
Donc elle a été inventée à Lillehammer.
Ouais.
Mais
par un ébéniste.
Est-ce qu'il y avait un aiguiseur à rabot à fromage avant, et que c'est un métier qui s'est perdu?
Ah,
nous, on avait des aiguiseurs à couteau. Et...
Parce que pas simple de l'aiguiser, vu la
ouais,
position
faut,
de la lame.
Ouais, il faut avoir un couteau assez fin qui puisse... Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ta question, comment on aiguise un
ou s'ils ont un bon business model, justement, c'est pas fait pour être aiguisé, il faut en racheter une autre, et c'est pour ça que ça continue
ça.
Peut-être. Ouais. C'est peut-être dans le business model.
Exactement, c'est pour ça qu'ils en vendent autant.
Aussi... J'ai vu dans les actus que c'était l'anniversaire d'un autre Thomas,
ah.
un Thomas plus âgé que notre dernier invité, qui passe son temps dans l'espace. Thomas Pesquet,
yes.
C'est son anniversaire aussi. Et en cherchant plus loin, j'ai découvert que Marcus Wundt, qui est suédo-norvégien, est considéré comme le premier astronaute norvégien de l'Agence spatiale européenne. Et il a fait son premier vol cet hiver. Donc là, il est juste rentré en février. Il a eu une formation express parce qu'il est sélectionné en novembre 2022. Et il a fait son premier vol là, en début 2024. Voilà, je me doutais pas que les Norvégiens étaient aussi à la ramasse, parce qu'il y a pas mal de Danois, il y a pas mal de Suédois. Donc c'est, et lui, il faut qu'il soit... C'est même pas un Norvégien pure souche, on va dire. C'est un Suédois, norvégien.
On prend ce qu'il y a à prendre.
Mais c'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le Wikipédia français-anglais, ils ne disent pas qu'il est norvégien. Il dit juste nationalité aussi norvégienne. Mais là, les Norvégiens, bien sûr, se sont réappropriés culturellement l'homme. Et aussi, il y a un autre candidat, potentiellement intéressant aussi pour la Norvège, Nima Shahinyan, qui est né en Iran, mais qui a été élevé à Ånebu, qui est donc à peu près à côté de Nittedal, près d'Oslo, qui lui fait aussi sa formation pour devenir astronaute, donc à voir s'il va être invité dans le futur. C'était ça dont je voulais parler dans les hommes qui marquent l'histoire de la Norvège.
Vers l'infini et au-delà.
On va écouter Voyou l'hiver.
Brisons la glace.
Eh bien, de retour dans notre émission Brisons la glace, on a écouté l'hiver de Voyou. On va se tourner vers toi, Emma. Tu nous as concocté une petite
chronique.
Moi,
je concocte rien du tout. Sauf des cocktails, des fois. Oui, on va rester dans la région de Lillehammer, figurez-vous.
Ah bah tiens.
Alors, j'attaque un peu le monde d'Anaïs, le monde des startups,
yes.
Ce merveilleux monde. Monde des startups, donc peut-être que toi Anaïs, tu connais déjà cette startup qui s'appelle Aviant, qui est donc basée à Lillehammer, et c'est une startup qui a démarré pendant le Covid, avec l'idée donc d'aider les hôpitaux et tous les services à distribuer des matériels comme du sang, des tests Covid, etc., avec des drones. Donc tout a commencé avec une idée papier, qui a fini par voir le jour pendant le Covid en 2021. Ils ont commencé à travailler avec un hôpital à Trondheim, qui ont été les premiers... j'ai envie de dire, à leur faire confiance, donc pour trimballer du sang, des choses comme ça. Et donc, ils ont continué leurs expérimentations. Et donc, en 2021, ils ont réussi à faire la route de Trondheim à Røros. Vous savez d'où vient le lait, tout ça. Donc, c'est à peu près 120 km, ce qui est le plus long vol autonome de drone jamais enregistré en Norvège.
C'est énorme.
Donc ça, avec à peu près 1,5 kg de matériel dessus, 120 km. Donc, ils ont poursuivi tous leurs essais sur comment les technologies aussi résistent aux températures norvégiennes. Hein. en plein hiver, on est sur des moins 25 sur les vents, jusqu'au maximum de 12 mètres par seconde. Et voilà, et pour donc ils ont livré du lait, ils ont fait des essais aussi avec Posten pour commencer à lancer des paquets et tout ça. Et donc là, on arrive janvier 2024, et donc passe à la vitesse supérieure. Donc maintenant, pour concurrencer Uber Eats et Deliveroo à Lilleheimer, vous pouvez faire appel à l'application Kate, qui vous permet donc de commander à manger, des courses, de la pharmacie, en drone. Vous êtes livré en à peu près une livraison moyenne de 24 minutes de délai. Donc voilà, pour maximum 1,5 kg de marchandises. Donc voilà, si vous habitez dans la région de Lillehammer et sa banlieue, donc autour de 17 km autour, ce qui est pareil, ce qui semble peu, mais en soi est énorme pour des distances de drone. Donc voilà, vous téléchargez Kite et wow, vous pouvez vous faire livrer à manger. Alors les Norvégiens, ils y voient plusieurs points intéressants. Il y a le point de vue écologique du truc, puisqu'évidemment un drone n'émet pas de gaz carbone, et un peu en plus en plus rapide et mieux qu'une voiture électrique encore. Donc voilà, il y a déjà l'aspect écologique et aussi l'aspect rapide, puisque voilà, on peut sauver une vie en envoyant une poche de sang au fin fond de la campagne en 20 minutes. C'est ça fou. Vous inspire?
Ouais, alors moi je vois déjà sur les livraisons de bouffe. J'imagine le nombre de gens qui vont être avec des lance-pierres ou des tirs à l'arc pour essayer d'intercepter
le burger de la mort.
Je pense que les repas des fois modernes.
Moi j'ai pas mal d'anxiété par rapport à ça. Je suis passionnée de la série Black Mirror et tu vois, tout ce qui de près ou de loin se rapproche de cette série me rend hyper anxieuse.
Moi, je suis avec toi.
On peut parler des Chinois, hein, si tu veux. je sais que tu avais envie que j'en parle.
Non, mais je trouve que c'est... Et puis, t'as envie de regarder le paysage et t'entends ce...
Ouais, ça va être les nouvelles disturbances modernes. C'est... Ouais, on entre dans une autre...
Ouais, puis j'ai pas forcément envie d'être filmé par un drone.
Exactement.
Où vont ces images? Elles vont servir à quoi?
Ouais, alors après,
même si je fais rien, quoi,
est-ce que le drone qui livre une pizza, il est en train de te filmer à poil sur ta terrasse? C'est vrai qu'on peut se poser la question.
S'ils veulent rentabiliser, you're live in Japan.
Non, mais après, comment si jamais le drone se plante, comment ça fonctionne? Ils vont pas refaire leur. Ce que je veux dire, si, justement, s'il y a un tir à l'arc qui intercepte la commande. Du coup, ça se passe quoi?
Mais je sais pas, parce qu'en France, on a déjà vu des livraisons de drogue et autres dans les prisons par drone. Hein. Alors ça
ah, fait... ouais,
ah ouais? Ah oui, oui, oui.
C'était les premiers d'ailleurs à sauter sur
Non, mais exactement, je pense qu'en plus que ça a été les premiers à expérimenter les livraisons par drone.
Qui ont fonctionné, qui n'ont pas été stoppées.
Ah bah non, enfin, il y en a qui sont stoppés, il y en a qui... C'est trop rapide.
Ça me paraît impossible.
Bah en fait, des fois, les gardiens, ils ne les voient pas forcément, le petit drone arriver.
Bon, parce qu'il dépose aussi, hein, il ne dépose pas un kilo de coke au milieu.
Non mais c'est ça, c'est, tu ne livres pas un kilo.
Non mais c'est un drone norvégien, donc c'est bon.
Il peut faire 1,5 kg.
Je me demande juste comment ça va se passer, la première réaction quand une personne qui a commandé un burger, il se retrouve par erreur avec une poche d'un litre et demi de sang.
C'est peut-être pas le même réseau de drones, ouais, en fait. Hein. Ils sont peut-être... Ils sont peut-être marketés différents.
Et la personne qui a besoin de sang se retrouve avec un Burger King.
Bon. C'est peut-être pas la même centrale de drones, si on peut parler en centrale de drones.
J'espère qu'ils ont une bonne logistique. Ouais,
ouais, on espère aussi.
Je pense à toutes les compagnies d'assurance aussi qui vont être spécialisées dans les blessures par drone, tout ce qui va un peu découler de ça, qui va vraiment faire partie, je pense, intégrante de nos vies à un moment, là, dans un futur proche. Qu'est-ce que... Voilà. Les avocats spécialisés là-dedans.
Bah, c'est un peu moins flippant que les Chinois, là, si vous voulez.
Bon, alors, parlons des Chinois.
C'est la Nanjing Silicon Intelligence, qui a déjà quand même plus de 500 employés. Donc, on est sur
une grosse
boîte. Et donc, vous savez que l'IA, là, ça va à une vitesse qui est vraiment incroyable. Donc là, maintenant, cette start-up à 500 employés, je ne sais plus si on est dans le monde des start-up.
C'est moyenne entreprise.
Cette grande... Ouais, le scale-up.
T'as dit quoi?
Le scale-up.
Le scale-up.
Ouais, c'est l'étape d'après.
Ah ben, je viens d'apprendre quelque chose.
D'accord. Voilà, tu vois, comme moi avec le rabot. Ouais, donc voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir d'une vidéo, d'un audio même que vous auriez d'une personne proche, on va pouvoir la programmer. Vous pouvez envoyer même que des messages que vous avez écrits, des lettres, etc. Ils vont un peu récupérer toutes ces infos et en fait demander à l'intelligence artificielle de recréer la personnalité de la personne. Donc évidemment, si vous avez des audios, des vidéos, eh ben, on va cloner sa voix. Donc après, ben, vous pouvez converser avec la personne morte.
Non, mais après, tu te dis, est-ce que les jeunes qui vont grandir avec ce service, c'est beaucoup plus mainstream bon, que maintenant, parce que là, c'est vraiment très, très niche. Ouais. Mais peut-être que ça va tellement bien marcher que ça va se développer, ça va généraliser. Est-ce que du coup, tu te dis, ah, bah, de toute façon, c'est pas très grave que je perde mes parce que je vais garder...
La façon dont on fait son deuil évolue énormément. Il suffit d'observer les réseaux sociaux de gens morts qu'il y a sur Facebook. Il y avait eu des études là-dessus, hein, sur le nombre de comptes inactifs de personnes décédées. Et il suffit d'observer les comportements des gens sur ces comptes inactifs. Il y a des gens qui, de temps en temps, vont mettre un message. Parce que, voilà, quelque part, ça fait un endroit où on dit à la personne, même si on sait pertinemment qu'elle ne verra jamais le message, ça permet de, je sais pas, d'aller voir qui a pensé à elle, à la communauté, ses amis proches.
La communauté de cette personne qui se retrouve comme ça. Ouais.
Voilà, on retrouve une photo avec la personne qui est disparue. Et puis, ben, d'un coup, ben, forcément, on pense à lui. On va poster cette photo, ça fait réagir les autres. On a changé aussi, ça, c'est quelque chose qui se faisait absolument pas avant les réseaux sociaux.
Voilà, on aura des options, et moi je trouve que c'est bien d'avoir des options, au final, continuer de faire vivre quelqu'un, ou justement accepter...
Chacun, oui, c'est vrai que le deuil est toujours une affaire très personnelle, hein, une affaire très unique.
Il y a des gens qui laissent des messages, il y en a qui ne les laisseront jamais.
Brisons les castes. Bon, ben... T'as pas une autre petite nouvelle pour terminer l'émission?
Si, on a quatre Belges bourrés.
On dirait le début d'une blague.
Ah oui, je me disais bien que t'avais parlé de Belges bourrés.
Donc, on avait quatre Belges du 2e bataillon de commande du détachement belge en Norvège. Et bien, ils étaient au Nauen Pub, un pub, donc, je crois que c'est près de Trondheim, si je dis pas de bêtises. Et puis, bon, bah, la soirée a dégénéré.
Okay.
Et donc, nos quatre militaires belges en garde à vue, deux mecs à l'hôpital, une bataille générale, la Belgique n'a pas marqué des points.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, une femme.
Encore.
Une histoire encore de meuf.
Et est-ce que tu dirais beaucoup d'alcool également?
Apparemment, les militaires, selon ce que j'ai lu du fait divers, les militaires un peu chauds, voire même des bons bras zéro, ont commencé un peu... En fin de soirée, à pas hésiter à enlever leur t-shirt. Bon, certaines femmes avaient l'air plutôt satisfaites de leur comportement, mais leurs mecs norvégiens bourrés, beaucoup moins.
Ah bah oui, c'est oui.
Voilà,
je comprends
donc
bien.
En gros, les quatre Belges se sont fait défoncer par les Norvégiens.
Ah
et
ouais.
Ça a fait, bon, pas la une des infos belges, mais en tout cas, voilà, ils se sont fait rappeler à l'ordre sur leur comportement et tout ça, et l'alcool. Une fois de plus.
Ils avaient les moyens quand même pour se mettre dans cet état pareil.
Si le prix de la bière empêchait les mecs de se mettre carton,
on
est dans le mauvais pays du coup. Hein. Si ça vraiment avait un effet sur le comportement alcoolique,
ça saurait.
Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire.
On va écouter le duo francophone French 79 et Kid Francescoli. Leur tube s'appelle Loving Feeling.
Je sais pas ce que vous pensez de Banksy. Tiens, on va qu'à faire un débat Banksy. Oh, je non, sens bah, que j'ai bah, vu en fait, l'œil de Jean-Nicolas.
Je suis ami avec...
Avec Banksy
Non, oui.
Il va
c'est
nous
moi.
Dire qui c'est. Attention, on exclut dans Brisons la glace.
Non,
c'est arrivé chez
ce soir, on sait qui est Banksy.
Et est-ce que tu es Daft Punk aussi?
Exactement, je suis justice. Non, il y a... Donc j'ai un ami qui est anglais, qui vit en Norvège depuis longtemps, et lui, il s'occupe de la communauté street art d'Oslo.
Ok.
Chaque année, ils font un festival où ils vont faire des grandes compositions murales dans les quartiers de Grünerløkka. Et lui, dès le début, il était très vindicatif contre cette expo en expliquant que bah oui, donc ce n'est pas une expo officielle et que c'est la reproduction et que c'est comment une personne, enfin une entreprise, récupère l'aura de Banksy pour se faire de l'argent parce que au final
parce que là Banksy il a rien à voir ce monde de mystery of Banksy.
Absolument pas, c'est une licence en fait, parce que comme en fait Banksy est un street artist anonyme, il n'y a pas de droit dessus, donc il y a des gens qui peuvent faire des reproductions, etc. Et donc là c'est exactement ce qui se passe, c'est que une personne qui achète la licence et puis peut exposer et rien ne lui revient, et puis ça n'aide pas non plus les organisations non gouvernementales qui le supportent, puisque Banksy, là, il est très actif. Moi, évidemment, je boycotte et je n'irai pas.
Oui, parce qu'en plus, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le prix de l'expo. Allez, un petit prix en oc, là.
Attends, elle est où l'expo?
Alors, elle est à Eucern Center.
Ouais, ok.
Bah, 320 en semaine et 350 le week-end, quand même. Ok.
Juste pour,
donc, pour voir 150 œuvres de l'artiste street art reproduites comme des graffitis, des photos, des sculptures, des installations vidéo et des impressions sur différents matériaux comme des toiles, des tissus, de l'alu, du plexiglas, et qui est donc 150 différentes œuvres reproduites pour faire cette expo.
Sachant que l'essence du street art, c'est que c'est dans la rue et que c'est gratuit.
Je sais bien. Moi, je me souviens d'être passé à Paris une fois où il y avait une expo Banksy, mais je crois qu'il y était. Qu'il en faisait partie à l'époque.
Il a fait de différentes expositions. Donc ça a été le cas. Il avait fait à Londres. Il s'était reversé à des associations caritatives. Mais là, non, en effet, c'est aucun lien.
Ok, ben ça va tourner dans toute l'Europe.
Et ben, transition plus, parfaite. Voilà. Parce que comme tu dis, c'est, si vous voulez soutenir quelque chose de gratuit, le street art, il y a le musée du street art qui vient d'ouvrir à Oslo.
Ah oh
à Vulcan.
Oh, génial. Ok.
Ouais. Donc juste à côté, donc si vous connaissez un peu Vulcan, cet endroit, il y a le magasin de fournitures artistiques qui s'appelle Torso.
Ouais.
Et juste à côté, il y a un grand espace qui était à l'époque Vulcan Showcase par Paguro et qui maintenant est devenu le musée du...
ancien espace.
Oui, qui est devenu le musée du street art. Et j'avais pitché l'idée, donc je suis trop contente qu'ils aient eu l'endroit.
Ouais.
Et c'est super, c'est gratuit. Donc ils font aussi... une partie expo avec des rotations, et il y a aussi une partie aussi où ils vont faire de l'encadrement, de l'impression, donc toute une partie aussi d'atelier. Donc je vous invite vraiment à checker.
Trop bien.
Je pense que ce sera sur la page
c'est
de Vulcan.
C'est parfait, là, plutôt que d'aller dépenser 350 couronnes.
Donc on conseille la visite du musée du street art.
Ouais, c'est pas mal,
l'expo.
On mettra les infos. On mettra les infos.
Voilà.
Dans le prochain épisode de Brisons la glace, nous donnerons la part belle aux femmes. Nous reviendrons sur l'histoire du féminisme en Norvège et de l'intégration des femmes dans la société.
On répète trois fois.
Industrialise.
Stan nous parlera du lien entre l'œuvre d'Henrik Ibsen et le droit de vote des femmes.
À l'époque, la pièce a été jugée un peu scandaleuse puisqu'elle remettait en cause l'ordre familial, mais aussi elle a servi de tremplin à la cause féministe en Norvège.
Nous fêterons les Brigittes.
Une rumeur éclate en 2022 que Brigitte Macron et née trogneux seraient en fait un Jean-Michel. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Et enfin, Anaïs nous parlera de start-up créées par des femmes, dont une qui s'attaque à la veille médiatique des contenus audio.
Ah, j'ai lancé une alerte sur ma boîte et on va voir si votre podcast...
On a dit plein de bêtises.
On va voir si ça ressort en positif et négatif.
Si cette émission vous a plu, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de la partager autour de vous et de nous donner un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux. Merci de votre soutien. Ciao.